Et si on prenait un sujet qui va ramener des commentaires terribles pour terminer la semaine? Ah, c'est sûr que Kung Fu Panda à côté, c'est un truc de rigolo.
Allez du cinéma! Allez du cinéma, bonjour!
À tous et toutes, et surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord, aujourd'hui dans le pire podcast cinéma. Le cinéma anglais s'engage aux côtés des victimes civiles de Gaza dans une grande vente aux enchères qui démarrera la semaine prochaine. On décortique ça et on regarde ce qu'il y a à gagner. À côté de ça, nous ne verrons pas le nouveau film de Terrence Malick cette année et ça me rend triste. Je vais vous expliquer en détail ce que je pense du bonhomme et de pourquoi ce film je l'attends énormément. Dans la partie audio, nouvelle rubrique exclusivement en audio, 3 morceaux, 1 compositeur. Cette semaine, on écoute le génie Cliff Martinez, et dans la partie vidéo, les trailers sympas qu'il ne fallait pas rater ces derniers jours. Il y aura aussi la question du public où on parlera Pirates des Caraïbes et une auditrice viendra nous parler de Il reste encore demain, le film italien qui a créé la surprise en salle. Et voilà, c'est le pire podcast cinéma avec vous.
Eh bien, ça ne va pas être dans la poche.
Avant de commencer, merci aux gens qui écoutent cette émission dans son format podcast ou qui la regardent sur YouTube. Quel que soit le choix que vous faites, vous avez du contenu exclusif à chaque plateforme, d'autant plus aujourd'hui vu qu'on lance une nouvelle rubrique en audio. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner aux deux, à vous abonner sur Spotify, sur YouTube, à vous abonner avec la cloche, sur iTunes, enfin vous connaissez le principe. J'en profite d'ailleurs pour ajouter que je reçois énormément de messages de gens qui disent qu'ils ont un bug sur Apple Podcast qui leur diffuse en boucle la même émission. Visiblement, c'est un bug qui vient de la plateforme. Moi, j'ai pas le bug personnellement sur mon Apple Podcast. Tout ce qu'il faut faire, c'est juste supprimer l'épisode téléchargé et le retélécharger, et normalement, le bon apparaît. Après, peut-être qu'il faut que je contacte le SAV d'Apple, il y a peut-être un problème. Parce que le pire podcast cinéma, c'est 3 fois par semaine, les lundis, mercredis et vendredis à 7h du matin pour ne rien rater de l'actualité de le cinéma. Et on commence tout de suite avec les sujets du jour.
Respect et robustesse, Caius C+. Alors, les nouvelles sont bonnes?
Ah, ils sont pas de la dernière marée, les nouvelles.
Moi, je veux du féroce actualité.
Avant de commencer, petit rappel qui je pense s'impose avec un tel sujet, merci d'être bienveillant dans les commentaires, de ne pas lancer des guerres inutiles et de ne pas insulter votre prochain. Oui, non, je sais que c'est un peu la base, mais c'est toujours bien de le rappeler, surtout quand l'émission est diffusée sur YouTube et que ça dispose d'un espace commentaire qu'on dira fleuri. Merci à vous. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que le conflit entre Israël et la Palestine s'intensifie et que malgré la résolution qu'a pris l'ONU de demander un cessez-le-feu, le gouvernement de Netanyahou ne l'entend pas de cette oreille. Il continue logiquement de demander la libération des otages, mais mène en parallèle des actions dévastatrices qui ont de lourdes conséquences sur les populations sur place, que ce soit au niveau des pertes civiles, des morts, mais aussi des enclaves où règne une famine grandissante. Ça, c'était pour le contexte. Pourquoi est-ce que j'en parle aujourd'hui? Pourquoi est-ce que j'en parle dans une émission de cinéma? Parce qu'on a déjà abordé la question des personnes s'engageant du côté d'Israël. Il y avait notamment eu une tribune faite par les artistes juifs d'Hollywood en réponse au discours qu'avait fait Jonathan Glazer sur la scène des Oscars. Mais il n'y a pas eu que des tribunes, il y a aussi eu des gens qui se sont déplacés. Il y a eu notamment Gérard Darmon qui est allé sur place en Israël pour donner un discours de motivation aux troupes, mais aussi, et ça c'était passé de manière beaucoup plus discrète, Quentin Tarantino dont la compagne est israélienne, qui vit d'ailleurs une partie de l'année à Tel Aviv, et qui s'était rendu dès le 19 octobre dernier pour booster le moral des troupes israéliennes. Et en face, les personnalités d'Hollywood qui constatent les ravages faits à Gaza ne peuvent pas se rendre sur place pour pouvoir soutenir les gens. Du coup, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'à distance, on peut, de par notre statut, se rendre utile? On avait vu pendant les Oscars, parce que oui, on reparle encore une fois des Oscars, de nombreuses personnalités arboraient un pins qui demandait un cessez-le-feu immédiat. Alors, je vais pas vous citer toutes les personnalités qui avaient le pins, hein, ça allait de Billie Eilish à Swan Arlo pour la France, et même d'ailleurs Mark Ruffalo qui s'était rendu devant les manifestants en déclarant « l'humanité doit prévaloir ». Mark Ruffalo d'ailleurs qui a été un des premiers à s'engager de la sorte. Dès le 19 octobre, il partageait une pétition pour dénoncer les morts d'enfants dans la bande de Gaza et demander leur protection. Mais une nouvelle action de grande ampleur vient de se mettre en place, et celle-ci est issue du monde du cinéma britannique. Elle s'appelle Cinema for Gaza avec un système d'enchères qui s'ouvrira dans quelques jours le 2 avril. Ce truc d'enchères, c'est quelque chose d'assez commun, notamment dans le monde du cinéma quand il s'agit de récupérer des grosses sommes d'argent. La dernière fois que c'était arrivé, c'était pour remplir la caisse de grève à Hollywood. Et en tout le principe, c'est des personnes qui disent voilà, qu'ils vont donner de leur temps ou des objets, etc. en échange d'une certaine somme d'argent qui montera grâce à des enchères. Cinema for Gaza récolte donc des fonds pour l'aide médicale à destination des réfugiés palestiniens, et outre le sujet lourd que cette cause sert et notamment la possibilité de voir qui s'engage pour cette cause, eh bien le but c'est quand même d'attirer le grand public, et pour ça il faut lui proposer des prix plus ou moins rigolos. J'utilise le mot rigolo, mais c'est pas anodin. Ce qui va suivre est étonnamment léger en comparaison de ce à quoi l'argent va servir. Donc allons-y, parlons-en. Je vais vous dire justement les différentes enchères qui sont disponibles. Je ne vais pas toutes les citer, mais si ça vous intéresse, il y a un lien dans la partie source qui permet de voir la totalité. Je crois qu'il y en a 66. Alors pour la soixantaine de prix disponibles, parmi les trucs les plus basiques, il y a parfois un zoom random avec un artiste, ou encore remporter des objets exclusifs tirés de tournages de films ou de séries. Qui dit Angleterre dit par exemple que les fans de Doctor Who vont être absolument ravis, puisqu'il est possible de faire un zoom avec la comédienne Pearl McKee, qui jouait Bill dans la série, dans la dernière saison de Peter Capaldi. On peut faire un zoom aussi avec Arthur Darvill et Karen Gillian, qui jouaient Amy et Rory Pond à l'époque du Docteur Matt Smith. Mais aussi, on peut obtenir un clap dédicacé par Peter Capaldi et Jenna Coleman, ou même, et c'est le plus joli de tous, un script sur lequel Peter Capaldi a dessiné toute une fresque qui représente un TARDIS. En parlant de choses dédicacées, il y a aussi un poster du super film Iron Claw, rempli de dessins effectués par un des comédiens du film qui est Harry Dickinson, mais aussi, et alors là c'est pas étonnant vu le cinéaste social engagé que c'est, on peut avoir un poster dédicacé par Ken Loach de son dernier film The Old Oak. C'est un peu la facilité de truc dédicacé. Ça permet d'offrir quelque chose au public sans que ce soit trop contraignant pour ta personne non plus, que t'aies pas à te taper un zoom random avec un inconnu. Mais certains vont bien plus loin que ça. Il y a notamment des invitations à des événements et à des rencontres, comme avec Rami Youssef, que vous avez peut-être vu dans Poor Things de Yorgos Lanthimos, et alors qui propose une after-party d'un de ses spectacles et un meet and greet, ou encore Brian Cox, le Brian Cox de Succession, qui invite à la dernière pièce qu'il est en train de jouer à Londres, avec là aussi un meet and greet associé. Et après ça, on en arrive au plus gros trophée que sont les discussions Zoom extrêmement spécialisées. On va aller de manière crescendo parce qu'il y a des trucs assez dingues, le dernier prix me rend fou. Tout d'abord, il y a le comédien britannique Jolyne Rubinstein, qui est assez peu connu en France quand même, qui propose un Zoom pour, je le cite, « raconter de la merde sur l'état actuel du monde ». Je pense que ça va être le sujet de tous les zooms de toute manière. Il y a ensuite la comédienne Amy Lou Wood, que vous avez sûrement vu dans la série Sex Education, qui propose un zoom pour parler principalement d'astrologie. Pourquoi pas. Il y a Joseph Quinn, qui est lui principalement connu pour Stranger Things et bientôt pour le film des 4 Fantastiques où il va jouer la torche humaine, qui lui propose de boire un thé en zoom. Ou encore, il y a Josh O'Connor qui est connu pour la série The Crown, et qui lui propose un tutoriel en direct pour vous apprendre à faire le meilleur porridge possible. C'est très con, mais ça me fait beaucoup rire. Mais le Graal suprême, il vient de la meilleure actrice au monde, et je ne dis pas ça juste parce que c'est ma comédienne préférée, mais Tilda Swinton, voilà, Tilda Swinton s'engage, elle, de son côté, à vous raconter à vous ou à vos enfants une histoire avant d'aller dormir. Sur le site, c'est littéralement décrit en disant « Tilda est sûrement l'une des comédiennes les plus talentueuses de sa génération, et ce sera sûrement la meilleure histoire avant d'aller au lit jamais entendue. » J'ai grave envie que Tilda Swinton me lise une histoire. Mon Dieu, c'est un rêve! Je me demande si elle prendrait un truc vraiment psyché, bizarre, avec une voix chelou. Tu sais, vraiment la voix de la méchante reine dans Narnia. Ou si, au contraire, ce serait un truc tellement plus joyeux, tellement plus doux. Est-ce qu'on peut demander le ton avec? Ça m'intéresse. En ce qui concerne les enchères, elle démarre donc lundi. Et je pense que ça va rapidement monter très très haut. Alors, pas pour tous les prix, c'est sûr. Mais je pense, par exemple, que en ce qui concerne Tilda Swinton qui vient vous raconter une histoire au lit, ça peut monter au-dessus des 100 000 livres sterling très 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 facilement. Ce qui fait environ 115 000 euros, quelque chose comme ça. Et derrière les blagues que je suis en train de faire sur les enchères, il y a quand même une cause. Une cause qui, elle, est bien moins drôle et crée un engagement auprès du public pour alerter sur la situation dans la bande de Gaza. Oui, à la toute base, ça permet de donner de l'argent pour avoir une bêtise sur Zoom avec une personnalité connue. Mais le résultat à la fin, c'est que cet argent va à des médecins qui actuellement travaillent en Palestine et qui ont une tâche qui est tout sauf simple. Bref, si vous avez une centaine de milliers d'euros à dépenser, je sais pas qui a ça, si des gens dans mon public ont une centaine de milliers d'euros à dépenser, informez-moi aussi, mais ce sera peut-être moins pour d'autres prix. Bref, si vous avez de l'argent à dépenser et que ces prix-là vous intéressent et que vous voulez aider cette cause, eh ben n'hésitez pas à vous renseigner directement dans le lien en description. C'est le monde du cinéma britannique qui met ça en place. Comme dirait l'autre, à votre bon cœur, monsieur, dame. Et si maintenant on parlait de Terrence Malick ? Non, parce que c'est pas souvent et que là j'ai l'occasion, donc allons-y, parlons-en. Avant d'aborder la news en question, je dois dire que j'ai un rapport au cinéma de Terrence Malick qui est assez complexe. Il y a autant de films de sa filmographie que j'adore, que je vénère, que d'autres que je conchis, mais véritablement des films qui me font mal intérieurement. Par exemple, j'ai une grande passion pour The Tree of Life, que j'ai eu la chance de découvrir au cinéma à 17 ans, et je me rappelle à l'époque, tout jeune cinéphile, me prendre une déflagration dans la tronche, dont j'ai eu pas mal de mal à me remettre. Parce que, et ça reviendra souvent quand on aborde le cas de Terrence Malick, son but, c'est de faire un cinéma monde. Et là, il le fait littéralement, je veux dire, le Big Bang, les dinosaures, et soudainement, Sean Penn, Brad Pitt, la transition est un peu rude. Et des années plus tard, j'ai avancé dans sa filmographie, en allant voir en salle, par exemple, Night of Cups ou Song to Song. Et ça, je peux pas. Ah mais vraiment, je peux pas, surtout Night of Cups. Oh là là, c'était horrible comme expérience. Ça me laisse à un kilomètre. En fait, la frontière est très fine entre créer un film monde rassembleur et un film parfaitement hermétique qui me laisse à la porte. Et là, c'est le cas. Vraiment, je reste complètement en retrait. Et il suffit pas de me mettre à l'image Christian Bale et Natalie Portman pour me faire plaisir. Bon, si, peut-être un peu, mais c'est un autre sujet. Night of Cups, vraiment, c'est un film que je trouve douloureux, tellement vraiment, je ne rentre pas dedans. Et donc, j'avais un peu perdu espoir, et des années après, je découvre son nouveau film, Une vie cachée, au Festival de Cannes. Et vous savez, j'utilise souvent l'expression « je tombe pas de ma chaise ». Bah là, l'inverse, je suis tombé de ma chaise. Un film immense sur un objecteur de conscience qui se bat pour ceux qu'il croit dans une Autriche qui est ravagée par la Seconde Guerre mondiale, avec une histoire d'amour au milieu qui va essayer de tenir malgré les événements, jusqu'à un final qui est réel, mais qui est d'une cruauté absolument dingue. C'est assez immense ce qu'il arrive à faire avec Une vie cachée. Et d'ailleurs, après quelques expériences qu'il avait fait dans ses films précédents que j'avais pas du tout aimé, c'est la première fois que je ressens que sa caméra grand angle, elle sert la narration, elle sert le jeu des comédiens, elle sert justement le monde qu'il essaye de nous dépeindre. Et pour la première fois, ben, je rentre en osmose totale avec le film. Vraiment, Une vie cachée, ça me bouleverse. Je l'avais mis à l'époque, en 2019, en top 1 de mon top de l'année. Vraiment, c'était mon film préféré de 2019 et j'ai pas changé d'avis. Vraiment, c'est extraordinaire. Est-ce que c'est moi qui ai grandi ou est-ce que c'est le cinéma de Terrence Malick qui, après des années à expérimenter, s'est délesté de 2-3 tics un peu chiants qui me laissaient à côté? Je ne sais pas du tout. Je n'ai aucune réponse à cette question. En tout cas, je sais qu'après avoir vu ce film, je me suis dit « Ok, la machine a redémarré, j'ai extrêmement hâte de voir le prochain. » Eh ben, on l'attend le prochain. Et on va l'attendre encore un petit peu de temps. Alors que ça fait déjà un moment qu'il est tourné. Parce que j'en ai déjà parlé plusieurs fois du prochain film de Terrence Malick qui s'appelle The Way of the Wind. C'est un film qui s'attaque à un gros sujet, à savoir la vie du Christ. Voilà, rien que ça. Ah bah, je vous parlais de film monde, on peut pas être plus dedans. Et si j'en parlais, c'est parce qu'il y avait d'énormes rumeurs comme quoi The Way of the Wind serait présenté au Festival de Cannes dans 2 mois. Une place qui est absolument logique pour ce genre de film puisque bah, Terrence Malick y a déjà gagné la Palme d'Or, y a présenté son précédent, etc., etc. Surtout qu'on se dit que le film doit être prêt. Vous savez quand est-ce qu'il a été tourné, The Way of the Wind? En 2019. Ça fait 5 ans qu'il est dans la boîte. Au bout d'un moment, faut accepter de l'enlever de la table de montage et dire « Ok, c'est bon, le plat est prêt, on le sert aux invités. » Ouais. Sauf que les tournages de Terrence Malick, c'est pas des tournages comme les autres. Oui, on a un scénario, mais on laisse tourner la caméra. On laisse vivre les comédiens, justement. On leur laisse la possibilité d'expérimenter autour de ce texte. Et d'après plusieurs échos, il serait reparti à la fin du tournage avec plus de 3000 heures de rush. Ce qui est débile. T'as 3000 heures de comédiens qui tentent des trucs et que tu dois réduire à la fin un film qui fait environ 3 heures. Bah pour obtenir 3 heures, il faut quand même que tu coupes 2997 heures. Surtout que le casting est absolument immense. Hein. T'as Gezar Horig qui joue Jésus, il jouait déjà dans Le Fils de Saul. Mathias Schoenaert qui joue Saint-Pierre, Mark Rylance qui joue Satan, mais aussi Ben Kingsley, Joseph Fiennes, Mathieu Kassovitz. Je peux pas vous dire tout le casting tellement ils sont nombreux. Mark Rylance d'ailleurs avait été interrogé sur le projet il y a quelques temps et il décrivait son personnage en disant que tout ce qu'il avait eu pour son personnage de Satan, c'était 28 pages de monologue. Voilà, non mais j'ai trop hâte de voir ce film, c'est quoi ce délire? Bon, je vous citais le comédien qui joue Jésus, Gezar Horig, il a récemment été reçu à une université pour parler de toute sa carrière, et il a annoncé lors de cette discussion que The Way of the Wind visait pour faire sa première le Festival de Cannes de 2025. Allez, un an de plus, merci, bonsoir, super. Il a d'ailleurs profité de cette discussion pour donner aussi quelques détails sur le scénario, parce que tout ce qu'on savait, c'était des étapes de la vie du Christ, mais pas grand-chose en plus. Alors, visiblement, le film tournera autour de l'histoire de Saint-Pierre, demandant à Jésus de s'engager politiquement pour stopper l'oppression romaine, tandis que, de son côté, Jésus s'y refuse. Ça a l'air complètement dingue. Mais vraiment complètement dingue. Et le fait de savoir que je vais devoir attendre un an de plus encore pour voir le film, bon bah on a déjà attendu 5 ans, on va attendre 6, mais ça fait chier. Terrence Malick, c'est un mec qui de toute manière a toujours cultivé une forme de mystère. Notamment, il a extrêmement peu d'apparitions publiques au cours des 15-20 dernières années. Notamment au Festival de Cannes, quand il est venu présenter Une vie cachée, bah il a pas monté le tapis rouge. Il était là, mais il était caché dans un coin. Il a fait une courte apparition de 15 secondes, puis il s'en est allé. Il refuse d'apparaître publiquement. C'est un type qui prend son temps. Et en même temps, dans un cinéma où on pousse à aller toujours plus vite et aux questions de rentabilité, etc., est-ce que c'est pas une bonne chose dans un certain sens ? Parce que un film, tu le sors qu'une fois. Et s'il est à chier, bah t'auras sorti un film à chier une seule fois, il n'y a pas de retour en arrière. Alors que si tu veux le maturer et prendre le temps qu'il soit vraiment bon, bah ça demande peut-être un peu plus de préparation. Donc parfois, il faut prendre le temps. Faut accepter de pas tout donner tout de suite. De faire 6 ans de montage sur un film. Et en même temps, je me dis, putain, avec 3000 heures de rush, ouais, c'est le minimum de faire 6 ans de montage. J'ai tellement hâte de voir le film, je crois que vous imaginez même pas. Les canois de 2024 vont devoir ronger leurs freins parce qu'ils ne l'auront pas. Mais c'est pas grave. Les canois de 2025, visiblement, en profiteront avec joie. Un compositeur, 3 morceaux. Voici une parenthèse un peu plus calme dans cette partie podcast du vendredi. Désormais, chaque semaine, nous reviendrons sur un compositeur marquant à travers 3 de ses œuvres sélectionnées par mes soins. Pas forcément les morceaux les plus mémorables, mais certainement ceux qui me touchent le plus et permettent, surtout, de parler de cinéma. Alors, installez-vous confortablement, mettez un casque sur vos oreilles et laissez la musique vous emporter. Un compositeur, 3 morceaux. Aujourd'hui, Cliff Martinez. D'abord batteur dans le groupe des Red Hot Chili Peppers, la toute première collaboration de Cliff Martinez au cinéma remonte à 1989 avec le cinéaste Steven Soderbergh pour la Palme d'Or, Sexe, Mensonge et Vidéo. S'accompagnant sur de nombreux longs-métrages au cours des années 90, ils marqueront une pause d'une dizaine d'années après un travail difficile effectué sur un remake d'un chef-d'œuvre de Tarkovsky, Solaris, sorti en 2002. Habitué à travailler à partir de sources électroniques, Cliff Martinez laisse place pour la première fois à un orchestre symphonique. En résulte une BO atmosphérique somptueuse, considérée comme sa plus grande œuvre à ce jour, dont le morceau « Don't Blow It » est issu. Difficile de citer le travail de Cliff Martinez sans aborder un autre cinéaste avec qui il collabore depuis plus de 10 ans, Nicholas Winding Refn. Orchestrant la bande originale de Drive puis Only God Forgives, une nouvelle étape est atteinte quand survient le travail sur The Neon Demon, sorti en 2016. Plus sombre encore qu'à son habitude, il dévoile des influences allant de Giorgio Moroder au Goblin en passant par Vangelis, pour plusieurs pièces sonores, dessinant le destin trouble des protagonistes féminins du récit, dévorés autant par le monde de la mode que par la ville de Los Angeles, dans un élan cannibale d'une violence inouïe. Arrivant dans le dernier acte du film, le morceau « Are We Having a Party » porte en lui la chute de ses corps dévorés. De choisir un morceau pour finir, alors n'ayons pas peur d'un peu de chauvinisme et envolons-nous vers la France. Après avoir accompagné le film Espion de Nicolas Saada en 2009, Cliff Martinez réitère son expérience française avec à l'origine de Xavier Giannoli la même année. Dans ce récit d'escroquerie mené par un François Cluzet aux motivations troubles, la musique de Cliff Martinez accompagne le mystère ambiant fait de faux semblants et de promesses rarement tenues. Et parmi les morceaux du film se trouve « Plus jamais seul ». C'est peu, mais trois morceaux, c'est déjà beaucoup. C'était trois morceaux de Cliff Martinez.
Les nouvelles n'étaient pas très fraîches, en effet.
Il est l'heure de la question du public. Vous le savez, à chaque émission, je poste une story sur Instagram. Suivez-moi sur Instagram, où je vous dis hey, « Eh, vous avez une question sur l'actualité du cinéma ?» Et si jamais vous en avez une, vous pouvez la poser. Moi, je sélectionne une de vos questions et elle passera dans l'émission si j'ai un truc à dire dessus. Le plus simple, c'est de me suivre sur Instagram. Le lien est en description. Et aujourd'hui, la question nous vient de Louis Demre qui demande « Reboot de Pirates des Caraïbes égale mauvaise idée ?» Je sais pas si mauvaise idée, mais en tout cas, idée qui va avoir beaucoup de mal à prendre, déjà. Bon, on avait déjà abordé la question d'un possible retour de Pirates des Caraïbes. La question à l'époque était « Disney, on dirait, veut le retour de Johnny Depp. Alors, est-ce que ce sera avec Johnny Depp, sans Johnny Depp ? Est-ce que Disney voulait vraiment ? Est-ce que c'était qu'une rumeur à la con ?» À ce sujet, on n'en sait vraiment pas plus. Parce que le producteur iconique de la saga Pirates des Caraïbes, Jerry Bruckheimer, a été interviewé tout récemment et on lui a demandé si les pirates allaient revenir. Et lui, au lieu de parler de suite, il a parlé de reboot. Un reboot. On garde le même univers, mais on change tout à l'intérieur. Et je vais le citer pour que ce soit un peu plus précis. On sait pas comment tous les réunir. On le sait juste pas. Dans un cas comme Top Gun, on a un acteur emblématique et brillant, mais combien de films il fait avant de faire Top Gun ? On n'en sait rien. Mais on va faire un reboot de Pirates. Donc ce sera plus facile à mettre en place, parce qu'on n'aura pas besoin d'attendre certains acteurs. Traduisons-le. Oui, si on fait un reboot, on n'a pas besoin de se faire chier avec le cas de Johnny Depp. C'est quand même plus simple. Pour le coup, on apprend dans un article Deadline que je vous ai mis dans la partie source qu'un scénario a été écrit par Craig Mazin. Craig Mazin qui est le scénariste de Tchernobyl ou de Last of Us et que le scénar est, selon ses mots, vraiment trop bizarre. On pensait qu'il n'y avait aucun moyen que Disney l'achète et ils l'ont fait. C'est peut-être d'ailleurs la news qui m'intéresse le plus, hein, plus que la notion de reboot ou quoi que ce soit, le fait que visiblement, il y a un scénario un peu fucked up associé au projet plutôt qu'un truc assez convenu. Parce que le problème, en faisant un reboot de Pirates des Caraïbes, c'est que même si le premier est sorti il y a 20 ans, oui, le premier Pirates des Caraïbes a plus de 20 ans, on est tous vieux, on vieillit tous, ça arrive, les gens sont encore très associés à la team de base qu'il y avait à l'intérieur des Pirates des Caraïbes. Le dernier film, il est pas si loin que ça, il remonte à il y a 7 ans. C'est encore très frais dans nos têtes. Et là, vous dites, on fait table rase du passé, on redémarre à zéro, ça va forcément s'aliéner une partie du public qui va dire quoi, c'est plus les mêmes personnages, j'en ai rien à taper. Puis je dis pas les mêmes persos, mais dans la notion de reboot, il y a aussi la possibilité de reprendre des personnages de la première saga et de les faire interpréter par de nouvelles personnes. Ça voudrait dire peut-être, par exemple, imaginons, soyons fous, un nouveau comédien pour interpréter Jack Sparrow. Ce serait une très mauvaise idée. Ce serait se tirer une balle dans le pied terrible. Un nouveau Will Turner, une nouvelle Elizabeth Swann, un nouveau Barbossa, un nouveau David Jones. En fait, le problème, c'est qu'en allant voir un film comme celui-là, tu seras pas dans la découverte d'un long métrage, tu seras juste dans la comparaison avec le précédent. Tu seras dans le jugement. Et dans le forcément, c'était mieux avant. Parce que je vais faire le vieux con deux secondes, mais oui, c'était mieux avant. Les Pirates des Caraïbes sont issus d'une époque des studios Disney qui est impossible à reproduire aujourd'hui. Une époque avec plus de décors réels, avec des budgets délirants. Je veux dire, le troisième film des Pirates des Caraïbes, ça a été pendant très longtemps le long métrage le plus cher de tous les temps. C'est vous dire le pognon qui était mis sur la table. Et puis c'était à une époque où on laissait à un auteur un peu plus les mains libres sur le projet, parce que on a vu ce que ça donne Pirates des Caraïbes quand c'est plus Gore Verbinski qui réalise après le 3. Ça s'est quand même pas mal effondré. Je me suis jamais remis de la bouillie CGI qui est le final du cinquième opus. Oh, c'est terrible. Et là, vous me dites, ok, script chelou, mais on redémarre à zéro et on va à nouveau créer l'exploit. Bah, je veux pas être pessimiste, mais je suis pessimiste, les loulous. La trilogie originelle Pirates des Caraïbes, c'est un alignement des planètes qui n'a aucun sens aujourd'hui. De par l'évolution du cinéma, de sa manière de produire, de sa manière d'enfermer les blockbusters dans certaines cases assez convenues, je ne vois pas comment il est possible de reproduire cet élan de liberté dans le cinéma actuel. Oui, parce que je l'ai pas dit avant, mais je l'avais dit dans d'autres émissions, je suis extrêmement fan de la première trilogie Pirates des Caraïbes. Vraiment, je trouve ça extra. Même le troisième opus, hein. C'est-à-dire, qui oserait aujourd'hui encore faire un blockbuster qui commence par littéralement une scène de pendaison où on te dit oui avec l'enfant là-bas, oui tout à fait. Ça c'était possible aussi parce qu'il y avait Gore Verbinski à la barre et que Gore Verbinski il a fait Lone Ranger qui est super, qui est vraiment mal aimé pour rien Lone Ranger, et qu'il a été complètement oublié le bonhomme, complètement laissé de côté. En fait j'y crois pas à ce reboot parce que je pense qu'il faut laisser cette licence tranquille, ou alors la rendre à Gore Verbinski, la rendre à la personne qui l'a rendu possible. Sauf que Gore Verbinski, comme je disais, on l'a déjà même pas laissé faire son film BioShock et on l'a refilé à un autre tâcheron. Ouais, je le sens pas. Je le sens pas du tout.
Pour le cinéma, Monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite lucarne.
Allez, un film pour finir et on remballe. Vous le savez, à chaque émission, je termine en vous parlant d'un film que j'ai apprécié ou non. Et le vendredi, c'est pas moi qui parle. Non, c'est un auditeur ou une auditrice qui vient prendre la parole en envoyant un audio à l'adresse mail lepirepodcastciné@gmail.com. Si t'as pas eu le temps de noter, le lien est en description. Avec cet audio, tu peux parler d'un film que t'as apprécié ou non, un film connu ou non, un film récent ou non. Et aujourd'hui, c'est une auditrice, c'est Lily, qui vient nous parler d'un film que j'ai malheureusement pas pu voir parce qu'il est pas encore sorti en salle au Québec. Un film italien qui a fait pas mal de bruit en salle. Lily, c'est à toi.
Bonjour Victor, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du film Il nous reste encore demain, film italien réalisé par Paola Cortellesi. Il me semble d'ailleurs que c'est son premier film. Et j'espère que ce ne sera pas son dernier, car je viens de voir, à mon sens, le film féministe de 2024 le mieux abouti et le plus sincère. On suit la vie de Delia, mère au foyer, dans une Italie post-Seconde Guerre mondiale. Dès les premières secondes du film, on comprend que le quotidien de cette femme est dirigé par l'autorité d'un mari violent. Ce film raconte les relations de couple d'une époque où les valeurs de celle-ci devraient aujourd'hui être résolues, et pourtant on se sent terriblement concerné parce que vit l'héroïne. Ce film nous fait réagir sur ce qu'elle vit et nous ne pourrons pas rester indifférents à ce qui se déroule sous nos yeux. Et malgré nous, nous devenons des témoins impuissants tout autant que certains personnages du film. La mise en scène de ce film nous plonge un peu plus dans l'angoisse de ce qui se déroule sous nos yeux. Pour vous donner un exemple, à un moment donné dans le film, d'un spectacle qui est à l'origine censé nous procurer des émotions positives quand on voit ce genre de choses, eh bien c'est mis en scène d'une façon tellement sinistre que ça nous donne vraiment une sensation de malaise. Il y a aussi les musiques qui sont d'une beauté, mais malheureusement elles viendront mettre en lumière malgré elles la détresse des moments que l'on voit à l'écran. Comme pour étouffer le son, car ce que l'on voit déjà est beaucoup trop horrible. C'est bien l'espoir qui nous fera supporter tout ce qui se déroule sous nos yeux désarmés. Une des meilleures idées de ce film, c'est vraiment de l'avoir réalisé en noir et blanc. Pour nous rappeler probablement que ce film se déroule dans une époque passée, mais c'est peut-être aussi une autre astuce de la réalisatrice pour masquer les coups, comme pour nous protéger, nous spectateurs, de cette vision alarmante, mais qui se lit sur le visage des autres personnages. Ce film est vraiment époustouflant par sa thématique, sa mise en scène et aussi le jeu des acteurs. C'est vraiment impressionnant, comme des fois, il n'y a pas de réplique, ils n'ont rien à dire, mais tout passe par leur visage et on arrive à savoir tout ce qu'ils pensent. C'est vraiment, vraiment incroyable. Car même si je vous dresse le portrait tragique d'une femme, je maintiens que c'est le film féministe de l'année. C'est l'histoire d'une amie, d'une épouse, d'une mère, d'une femme qui va tout faire pour que son avenir et celui des autres femmes soient celui que nous pouvons vivre aujourd'hui. Il me semble que ce film est encore disponible dans certaines salles. Si vous pouvez, que vous soyez un homme ou une femme, je vous conseille fortement d'aller voir ce film qui est un chef-d'œuvre de cette année et je ne pèse pas mes mots. Merci de m'avoir écouté.
C'est ainsi que se termine cette émission du Pire Podcast Cinéma. Merci de l'avoir suivi jusque-là. J'espère que vous allez bien là où vous êtes, que vos proches et vous-même vous sentez bien et que tout roule dans votre vie. On a terminé la semaine avec des sacrées news sur le cinéma. Je vous remercie, parce que je le fais trop rarement, je vous remercie une nouvelle fois de suivre l'émission et de la partager et de montrer votre engouement. Je regarde toutes vos stories, vous me dites « Ah ouais, je regardais l'émission ici, blablabla ». Ça me touche beaucoup, donc merci beaucoup pour ça. Merci de continuer, vous êtes tip top coolos. Et bah sinon on se retrouve lundi. Voilà, on se retrouve lundi, on redémarrera une nouvelle semaine ensemble. Pour l'instant, c'est terminé. Mais si vous en voulez encore.
Non mais oui, bien sûr, mais c'est fini cette histoire là.
Par contre, la prochaine fois, avec plaisir.